Bonjour, bienvenue sur Radio B 90 FM, les bonnes ondes. Nous sommes heureux de vous saluer avec notre chronique du passé mensuelle du deuxième mercredi du mois. Bonjour Rémi.
Bonjour à vous tous, auditeurs. Bonjour Martine. Nous sommes dans la période de la fête de la science. Quel personnage évoquons-nous aujourd'hui ?
Eh bien, nous évoquons Alexandre Cirand, un érudit, un homme étonnant, curieux de tout. Mort il y a tout juste 150 ans, le 7 septembre 1871. Et nous l'évoquons après avoir écouté le début du mouvement de la symphonie numéro 6 de Beethoven.
Alexandre Cirand, une rue honore sa mémoire à Bourg.
Dans un quartier tout à fait adapté, à proximité de la médiathèque Elisabeth et Roger Vaillant, qui conserve un important fonds patrimonial d'auteurs locaux.
Qui est Alexandre Cirand ?
Alexandre Cirand est né à Bourg le 5 floréal de l'an 7 de la République, soit le 24 avril 1799. Son père, Jean-Marie-Antoine Cirand, est originaire d'Ambérieu-en-Bugey, où il a embrassé une carrière administrative. Sa mère est d'une famille bourgeoise de Bourg.
1799, nous sommes en pleine période révolutionnaire.
En 1793, son père est enrôlé dans un bataillon de l'Ain à Saint-Rambert-en-Bugey. Il effectue une campagne navale en Méditerranée, puis il est employé au service des vivres de l'armée d'Italie. Il est nommé commissaire du gouvernement pour le canton de Bourg en novembre 1795, puis en préfecture de l'Ain en 1805. Il est le conseiller de préfecture du préfet Bossy que nous avons évoqué l'an dernier sur ses ondes de Radio B. En 1814-1815, le préfet Rivet se replie à Lyon et Jean-Marie-Antoine Cirand est chargé de gérer l'occupation autrichienne. Il est député de l'Ain de 1815 à 1821, avant de reprendre son poste de conseiller de préfecture.
Tout jeune, aux côtés de son père, Alexandre Cirand a vécu, en direct, de nombreux événements tumultueux.
On peut regretter qu'il n'ait pas laissé de souvenirs par écrit, pour l'histoire locale. En fait, on sait peu de choses sur sa vie privée. Il fait sans doute des études de droit, car il entre dans la magistrature en 1824 à Belley comme substitut. Il se marie le 13 août 1827 à Sey en Varais avec Xavier Ligier, leur premier des quatre enfants, et Xavier Clémence, née le 14 juin 1828 à Belley. Deux ans plus tard, Alexandre Cirand est nommé juge à Bourg en 1830. Au recensement de 1846, il habite rue de la Paix et il va rester fidèle à sa ville natale.
Comme beaucoup d'érudits de son époque, il est admis à la Société royale d'émulation et d'agriculture de l'Ain.
En dehors de sa profession, il s'intéresse aux choses qui l'environnent. Il observe et consigne le résultat de ses travaux.
Quelle est sa première publication ?
Dans le bulletin de la Société d'émulation de 1840. Pour deux sujets qui resteront sa double préoccupation, l'agriculture et l'archéologie. Pour l'agriculture, il analyse une brochure éditée par un comice agricole du Tarn à propos de l'amélioration de la production agricole. Pour l'archéologie, en Bresse, il publie un rapport sur des objets antiques découverts à Dompierre-sur-Ain, aujourd'hui Dompierre-sur-Velle.
Martine, nous allons d'abord nous intéresser à l'archéologie. Vous avez relevé une de ses réflexions intéressantes.
Il écrit, et je cite, « Chaque jour, le temps et la main de l'homme nous enlèvent de précieux monuments qui disparaissent, inaperçus. Je me suis efforcé d'en prendre note et de recueillir ce que j'ai pu rencontrer. »
Ce regret ne l'empêche pas de prospecter, d'écrire et de dessiner.
Oh, sa persévérance est étonnante. Il parcourt toutes les régions du département et il choisit d'appeler ses voyages du terme de « course ». Il va en effectuer 14, publiant régulièrement jusqu'en 1854. En 1855, il établit une charte du département de l'Ain. Ensuite, il publie, je cite, « une nouvelle excursion archéologique en deux parties, en 1857-1859 et un dernier article en 1867 ».
Comment procède-t-il ?
Avec beaucoup de prudence et de modestie. Il étudie d'abord ce qui a été publié localement et il se place dans la continuité de Thomas Riboud, l'érudit local qui a créé la Société d'émulation. À l'issue d'un sujet, il entoure ses conclusions de beaucoup de prudence, non par indécision, mais une découverte ultérieure peut modifier un avis, le compléter ou le remettre en cause.
Ses travaux sont-ils fiables ?
C'est un archéologue de son époque, ou plutôt un antiquaire, comme on disait alors. Bien sûr, il ne procédait pas comme aujourd'hui, où l'objet est à port étudié, photographié, en situation, au sein des sédiments qui concourent à la datation. Là, l'objet est extrait, puis étudié et comparé avec d'autres. Alexandre Siran évoque néanmoins le contexte de la trouvaille. Parfois, on lui apporte directement un objet. Il n'a plus de repères et sa tâche est plus difficile.
Que trouve-t-il en Bresse ?
Beaucoup d'objets gaulois, gallo-romains ou romains. Des statuettes, sans doute des divinités. Des inscriptions latines. Des tessons de poterie. Des tuiles. Des pièces de monnaie. Des unités de mesure. Des moulins à bras. Des tombeaux. Une étonnante moisson pleine de diversité. Il possède une terre à Brou. Il l'explore et y trouve des objets romains. Il prospecte aussi à Attignat, Morvel, à Saint-Étienne-du-Bois, Césaria, Saint-Martin-du-Mont, ou encore dans le Revermont ou le Val-de-Saône. En réalité, peu de régions de l'Ain lui échappent.
Comment détermine-t-il ses découvertes ?
Par comparaison avec d'autres objets. À l'époque, les sociétés savantes correspondaient beaucoup entre elles, échangeaient leurs publications. La Société d'émulation dispose ainsi d'une importante documentation et Alexandre Siran devient un membre correspondant avec des sociétés de Lyon, Mâcon, Autun, L'Aulnay et même de Turin.
À force d'études, d'observations, il est considéré comme un expert.
Et oui, au point de participer comme numismate aux fouilles du site antique d'Izernore, un haut lieu de l'archéologie dans l'Ain.
Lors de ses excursions, s'intéresse-t-il à des objets moins anciens ?
Eh oui, à des témoins de l'époque médiévale ou du temps de Marguerite d'Autriche. Il trouve, par exemple, un chapiteau de colonne toscane, un casque datant de François Ier, des monnaies savoyardes. On lui apporte un boulet de pierre trouvé au pied des remparts de Bourg. Il retrouve aussi des fragments de l'ancien jubé de Brou, démoli en 1768.
Il voit aussi des survivances gauloises au sein de la population de son époque.
Les pays de l'Ain ont appartenu à la Gaule chevelue. Malgré les vagues d'invasions durant des siècles, les mélanges inévitables de cultures, la Bresse, à son époque, conserve encore des usages gaulois, même si ceux-ci tendent à disparaître. Il considère comme gaulois le bonnet enveloppant la tête des femmes, l'habitude des hommes à garder les cheveux longs jusque sur le devant du visage, les meules coniques établies dans les cours de ferme au moment des moissons, la manière de fêter la fin d'un événement par des cris caractéristiques, les huchements, qu'ont longtemps repris les conscrits. Nous lui laisserons la paternité de ses affirmations, innocentes et fort sympathiques.
Il s'intéresse aussi à Bourg.
Au Bourg-en-Bresse moyenâgeux, à la rue Bourmaillet, alors en deux mots, aux vieilles bâtisses du centre, là où la propreté des rues est un problème constant. Sa bisaïeule vit encore dans une maison antique, selon son expression. Il en fait la description. Il étudie aussi l'histoire des églises locales comme à Saint-Étienne-du-Bois, Saint-Rémy, Villars ou Vonnat. Souligne l'intérêt du tympan de Vendin, des églises qui ont souffert durant la Révolution, qui a fait abattre tant les clochers.
Et si nous passions à l'agriculture ?
Eh bien, volontiers. Il semble l'avoir abordé par les publications reçues à la Société d'émulation par les conférences données à Bourg. L'agriculture est toujours une grande affaire, car il faut produire plus et mieux. Il va ainsi s'intéresser à l'élevage des volailles, aux abeilles, à l'introduction du bétail suisse ou hollandais pour des croisements, à comparer l'intérêt à cultiver des haricots plutôt que des fèves, aux maladies de la pomme de terre, à de nouveaux légumes, à la culture de la vigne avec l'introduction de nouveaux plants.
Il est vraiment éclectique. À propos de la vigne, ces études ont lieu avant l'arrivée du phylloxéra, qui détruira tous les vignobles de France. Les Bressans cultivent encore de la vigne ces années-là ?
Comme toujours, il fait des essais, à Bourg ou à Vonnat, là où il a hérité de son père du château d'Épaissol, aujourd'hui propriété du célèbre restaurateur Georges Blanc. Alexandre Siran demande à ses relations d'expérimenter les mêmes plans que lui, pour comparer et conforter les résultats.
Il étudie aussi la première calamité qui s'abat sur le vignoble français.
Oui, l'oïdium, un mal survenu en Angleterre en 1845, arrivé en France en 1848. Il se manifeste sous la forme d'un champignon microscopique qui blanchit les feuilles de vigne avant de s'attaquer à la grappe qui finit par se dégrader. La récolte est compromise et il est important de traiter préventivement par le soufre.
Comme on l'a constaté, Alexandre Siran est un élément important de la société d'émulation.
Seulement un des éléments majeurs. Il y côtoie Charles Jarin, le secrétaire, le docteur Hébrard, Alphonse Ma, le pomologue, Marc-Antoine Puvis, qui publie de nombreux articles sur l'agriculture, ou encore l'historien et écrivain Philibert Leduc. Tous ces érudits se rencontrent régulièrement pour des conférences.
Alexandre Siran a aussi beaucoup d'empathie pour des gens.
Il consacre un article à un aveugle de naissance du hameau des Plaines de Vonnat. Cet aveugle rejoint le centre du village, distant de 3 km, sans trébucher, en franchissant 3 ponts, grâce à sa mémoire et à ses sensations.
Il rencontre un autre personnage, Édouard Baudouin.
Oui, c'est le maire de Vergeon, village près de Coligny. Nous l'avions découvert en août comme artiste peintre. Là, on le découvre, inventeur d'un piège à rats fruitiers, les Loirs. Un homme étonnant, comme l'époque le veut.
Alexandre Siran a vécu sous plusieurs régimes politiques.
Allez, pour simplifier, de Napoléon Ier à Napoléon III, en passant par la royauté et la Seconde République. Il a traversé tout le Second Empire, une période faste pour l'ensemble de la France grâce au développement des chemins de fer.
Il décède le 7 septembre 1871 à 72 ans, après une vie bien accomplie. Vous pouvez consulter ses ouvrages, les bulletins de la Société d'émulation, aux archives départementales ou à la médiathèque Elisabeth et Roger Vaillant à Bourg-en-Bresse. Le site des Chroniques de Bresse publie quelques-uns de ses dessins.
Ainsi, Alexandre Siran est décédé voici 150 ans. Nous avons commémoré cet anniversaire. Merci Jimmy pour la technique. Et nous vous donnons rendez-vous dans un mois sur Radio B, 90 FM, Les Bonnes Ondes. Nous nous quittons sur une musique héritée de nos ancêtres celtes. Au revoir avec Triane. Et alors, je ne prononcerai pas le titre.
Au revoir.
Au revoir.
Heal, 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 heal Yogi, you're my love.